Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, qu'il faut finalement peu de choses pour être heureux, un nouveau générique par exemple, ou encore quelques idées de mise en scène à se coller sous l'œil, un ou deux acteurs dignes de ce nom, voire tant qu'à faire un grand artisan de la réalisation aux commandes des caméras. On ne demande pas grand chose finalement, et donc quand on nous offre tout d'un coup, on ne boude pas notre plaisir. Aussi c'est avec un certain frétiment que nous attendions Bienvenue à Marwen, nouveau film de ce bon vieux Robert Zemeckis, avec en tête d'affiche le merveilleux Steve Carell, un menu des plus alléchants qu'on va déguster en compagnie du trio de miniaturistes de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut ma belle.
Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut mon beau.
Tu rétablis l'équilibre sexuel, c'est magnifique. Exactement. C'est nos ciné, épisode 167, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Bienvenue à Marwen, c'est inspiré d'une histoire vraie qui avait par le passé donné lieu à un documentaire, à de nombreux reportages, l'histoire donc de Mark Hogenkamp, joué par Steve Carell, qui en sortant d'un bar se fait tabasser par un groupe de types et se retrouve dans le coma. En se réveillant, il est amnésique et se lance dans une étrange entreprise pour reprendre le contrôle de sa mémoire, la fabrication de la réplique miniature d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, village dans lequel il va faire vivre son double, ses proches, ses conquêtes fantasmées et même ses agresseurs.
Hey, looking good.
What is all of this?
The world-famous Marwen, Mark's art installation.
So that's the guy.
Yeah, it's right up there.
Some Nazi thugs jumped him. It's a miracle he survived.
I was a hell of a good artist, and now I can barely write my name. So my dolls have to tell the story.
Derrière la caméra, donc c'est Robert Zemeckis sur un scénario qu'il co-signe avec Caroline Thompson, et au casting, outre Carell, on trouve Leslie Mann, Diane Kruger, encore la chanteuse Janelle Monáe. Votre avis, décidément, sur Marwen, les amis. Bon, Julien Dupuis est autour de la table, c'est pas
évidemment
parce qu'on est en 2019 qu'on va abandonner les bonnes vieilles traditions, donc tu vas commencer, Julien.
En ouverture, je voulais juste préciser un truc qui est quand même vraiment étonnant, c'est que Robert Zemeckis, jusqu'à présent, il y avait 3-4 ans entre chacun de ses films, en fait. Et là, depuis Flight, en fait, il a enchaîné les films à un rythme absolument ahurissant, et ça risque de pas se calmer, puisqu'il a toujours plusieurs projets, en fait, à la suite. Mais il fait quand même preuve d'une productivité, d'une vitalité créatrice qui est complètement délirante, et il me semblait important de le souligner, en fait, en ouverture. C'est un peu accessoire, hein, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de Marwen, d'autant plus que c'est pas quelqu'un qui fait des films, disons, logistiquement légers. C'est compliqué, quoi, les films de Robert Zemeckis, c'est des films qui sont techniquement, au niveau de la production et tout, c'est lourd, quoi, et je trouve ça, moi, c'est galvanisant, je suis extrêmement heureux parce que c'est évidemment un réalisateur que j'adore, mais ça m'étonne quand même, quoi, je trouve ça hallucinant qu'il arrive à enchaîner, à enquiller comme ça.
Ouais, et rentre dans une logique à la Spielberg.
Les films les uns après les autres, c'est vraiment étonnant, mais il est même plus productif que Spielberg aujourd'hui, qui, quand même, entre ses séries où il fait des trois films en même temps quasiment, se laisse quand même des laps de temps relativement longs. Lui, ça a l'air quand même, pour l'instant, ininterrompu. Voilà. Donc, ensuite, en ce qui concerne Marwen, c'est encore une fois un film vraiment passionnant. Déjà, de façon la plus basique possible, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le film où il réconcilie ce qui a été, au niveau de son mode opératoire, les deux grands pans, en fait, de sa filmographie, qui sont d'une part le cinéma traditionnel et puis d'autre part le cinéma virtuel, un peu comme ce que Spielberg a fait cette année avec Ready Player One. Et si je parle de Ready Player One, ce n'est pas un hasard, parce que je pense, c'est comme ça que j'ai vu le film, il y a vraiment de ça, en fait, dans Marwen. C'est-à-dire que oui, c'est adapté de l'histoire vraie de ce bonhomme, et donc par extension du documentaire qui en avait été tiré. Il y a évidemment une approche et un traitement sur la folie, etc. Mais je pense qu'avant tout, c'est ce que nous raconte vraiment Marwan, c'est comment tu canalises toutes tes psychoses, tes craintes, tes peurs, à travers ton art, en te projetant en fait dans un univers imaginaire dont tu es le maître total et absolu.
Enfin, ça ne pouvait que parler à un cinéaste.
Bah évidemment, et alors surtout ce qui est intéressant, il te le signale dès le début, c'est-à-dire que le personnage il fabrique cette maquette à l'intérieur de laquelle il va se projeter, mais le biais pour Zemeckis de te faire rentrer en fait là-dedans, c'est surtout à travers ses photos en fait et son rapport à l'objectif, à la caméra, et comment lui il pénètre en fait dans cet univers en rentrant littéralement à l'intérieur de l'image qui est filmée, qui est captée par l'appareil photo. Et du coup, il y a quelque chose de très intéressant qui ressemble aussi à Ready Player One. Il y aurait vraiment une étude comparée poussée à faire, en fait, je pense, entre les deux films, sur la façon dont tu traites le réel et tu es plus contraint en fait dans le réel par la physicalité du lieu, la lourdeur de la caméra, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'hésite pas non plus à te faire un long plan séquence fixe à un moment clé d'histoire. Et à côté de ça, il y a une caméra qui est nettement plus libre, nettement plus mobile, nettement plus réactive par rapport à l'action quand tu te retrouves dans ce monde fantasmé et fantasmagorique. Il y a autre chose aussi, moi, qui me plaît énormément dans Marwan, c'est le côté malpoli en fait de Zemeckis, qui est pour moi quelque chose qui est là depuis le début en fait, qui a toujours été là. C'est un mec qui a un vrai pet au casque, hein, Zemeckis, et qui l'assume totalement. Hein. D'ailleurs, là, encore une fois, je pense que s'il se projette lui-même dans le personnage de Steve Carell, enfin, c'est ma lecture en fait du film, mais c'est logique. C'est-à-dire qu'il a un côté, il faut se souvenir d'où il vient. C'est un geek. Qui n'avait pas qui était bizarre en fait, il a un côté un peu sociopathe hein, je pense hein, Zemeckis, et le corollaire en fait de ça, c'est que dans son univers fantasmé, c'est quand même vraiment déluré quoi. C'est-à-dire que le côté rotomane de Zemeckis, il est bel et bien traité là, et de façon absolument pas frontale. Il s'en cache pas quoi. C'est-à-dire que voilà, je suis même étonné que le film n'ait pas fait qu'on se retrouve pas à la base de critiques bas du front qui nous dirait que c'est femmes objets ou des choses comme ça dans le film, parce que c'est pas disons que le film pourrait prêter le flanc à de telles critiques, parce qu'il en a rien à foutre en fait, il se préoccupe pas de ça. Mais du coup, il y a un érotisme sous-jacent comme souvent hein, chez Zemeckis, hein, d'ailleurs, et aussi une violence qui reste très correcte, disons qui reste acceptable, mais si on regarde dans le détail, en fait, c'est super gore en fait comme film, enfin c'est super radical, c'est pas super gore, mais enfin on sent que il aime les premiers Peter Jackson il y va franco de bord. Tout ça pour dire que il y a le film tel que je viens de vous le présenter, je pense. Après, je verrai ce que mes collègues en disent. Et il y a la façon dont on vous le vend. Donc, ne vous laissez pas avoir par la façon dont on vous le vend, parce que j'ai vu l'affiche, le titre français « Bienvenue à Marwan », etc. Où on essaye de capitaliser en gros sur ce qui lui reste un peu à Zemeckis, parce que le film est dans la course aux Oscars, même si à mon avis, il n'aura rien. C'est un film trop iconoclaste, trop fou, trop bizarre, trop étrange, encore plus bizarre et étrange que ne l'étaient ses précédents films. Et l'affiche n'est absolument pas du tout représentatif de ce qu'est le film. Ça reste un film complètement taré, un de ses plus fous, et qui en plus il y a un des aspects fous en fait du film, c'est que c'est un film tout petit, très intimiste, mais qui fait preuve quand même d'une imagination complètement débridée et assez énorme.
Voilà. Graphique.
Moi, je suis toujours très très agréablement requinqué lorsque, en sortant d'un film, je me demande, mais qui d'autre aurait pu le faire ? C'est généralement la preuve qu'on a affaire à quelque chose qui a tout simplement une patte, quoi. Et c'est inimaginable après coup de se dire que quelqu'un d'autre que Zemeckis aurait pu faire un film comme celui-ci, tellement à tout point de vue, il correspond à ce que à ce qu'il est, que ce soit dans sa fabrication, évidemment, par justement la façon avec laquelle la performance capture s'est imposée comme une évidence dans sa fabrication, comme par rapport à ces thématiques que Julien a souligné. Ça, c'est le premier bon point. Ça veut dire que même si on part d'une histoire préexistante, on parle d'un documentaire préexistant, donc l'affaire étant que Zemeckis a découvert le documentaire et a tout de suite sécurisé les droits, et qu'au même moment, Steve Carell cherchait à obtenir les droits également, et qu'en gros, le projet serait né de cette rencontre. Voilà. Donc, il y a déjà une histoire qui nous a été racontée autour de Marwan Cole. Et de voir comment Zemeckis se l'est complètement approprié à un point où on se dit mais c'était impossible que quelqu'un d'autre puisse le faire. Ça c'est le premier point. Le deuxième, je le trouve extrêmement bien raconté dans la façon avec laquelle il rend évident des choses qui sur le papier sont très délicates. Ne serait-ce que cette idée du monde imaginal qui sert d'interface entre la conscience profonde du personnage et le monde réel. Je pense qu'un spectateur qui déboule en ne connaissant absolument rien, parce qu'au départ, c'est un film qui est fait pour des gens qui n'ont pas vu le documentaire, qui ne connaissent pas David Hogenkamp et qui ne savent pas quel est son problème et comment il a résolu son problème. Quoi. Mais la façon, la mise en scène te porte, et notamment, je pense que le début est très parlant à ce niveau-là, puisqu'on démarre directement dans le monde imaginal, dont on commence progressivement à repérer les inexactitudes. En fait. C'est-à-dire que ça pourrait presque être un film normal, avec un avion au-dessus d'une forêt, etc., qui tombe, etc. Sauf que dès que le personnage apparaît et qui met ses pieds dans la boue, on remarque au niveau de la boue qu'il y a quelque chose qui déconne, c'est pas tout à fait réaliste. Et bon, et lorsqu'il arrive devant les soldats allemands et que certains d'entre eux sont tués, ils tombent exactement comme le tomberaient des poupées, c'est-à-dire totalement immobiles. Et là, il y a une espèce de sidération progressive du spectateur dans l'idée qu'il est en train de regarder depuis le début des poupées qui s'animent. Et si tu veux, par sa mise en scène, il te conditionne à accepter un principe de transfiguration du réel par l'imaginaire du héros qui est pas simple du tout. J'ai pas le souvenir non plus qu'avant la moitié du film, le héros dise que ses poupées sont des répliques des gens qu'il connaît. On l'a déjà compris. Et tous ces éléments-là sont déjà intégrés dans le récit. C'est ce qui nous rappelle que Zemeckis était aussi, avant d'être un cinéaste de renom, a d'abord une carrière de scénariste. Quoi. C'est quelqu'un qui sait vraiment par quel bout prendre une histoire et par quel bout l'intelligence du spectateur va lui permettre d'avancer et poser ses pions. Il fait très confiance à l'intelligence du spectateur. Donc ça, c'est aussi une des choses qui m'a vraiment, vraiment séduit. Je trouve que un des points admirables justement du film dans le travail, dans le monde imaginal, déjà, c'est d'avoir réussi à visuellement le séparer du monde réel par des jeux de focales très subtils. Il y a une grande profondeur de champ quand on est dans le monde des maquettes, par exemple, mais en même temps, une grande profondeur de champ qui est contrarié par les effets de tilt-shift qu'on a souvent quand on filme des jouets ou des maquettes, en fait. Il y a toujours un problème voilà. Alors que quand on est dans le quotidien de Marc, le rapport entre lui et l'environnement est beaucoup moins marqué qu'il ne l'est dans le monde imaginal. C'est très subtil, mais c'est bien fait. Et alors là où c'est vraiment génial, je trouve, c'est d'avoir réussi à trouver l'équilibre parfait pour que ces poupées soient vivantes tout en restant des poupées. C'est-à-dire où on reconnaisse les comédiens, on reconnaisse leur jeu, et en même temps, à aucun moment on doute du fait que ce soit du plastique qu'on a sous les yeux. Et ça, c'est vraiment... Enfin, il faut le voir pour voir à quel point ça a été un point hyper délicat. Donc, tout ça me rend extrêmement, extrêmement joyeux. J'ai néanmoins quelques petites réserves, alors elles sont finalement assez minuscules. Je trouve que le film aurait manque un peu de spectaculaire, et pas forcément par rapport aux scènes qui se passent dans Marwan Cole, mais paradoxalement par rapport aux scènes intimistes. Par moments, elle me semble trop intimiste, en fait, et de la part de Zemeckis, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de scènes intimistes dans un film comme, je sais pas moi, comme Forrest Gump, par exemple, qui vont pas donner l'impression d'être aussi resserrées, de coincer comme ça vraiment les comédiens, à deux, trois exceptions près, j'ai quand même l'impression parfois que c'était presque tourné à l'économie.
C'est voulu, hein, moi, je pense.
Oui, pour marquer encore une fois la distance avec le monde imaginal. Ouais. Mais bon, j'aurais.
Mais même dans le cadre et dans la conception des décors. Enfin, ouais, je pense de sa maison à l'intérieur, etc.
Oui, elle est un peu étouffante.
T'as des choses dans le cadre qui sont là pour encadrer, emprisonner encore un peu plus les personnages. Quoi.
À titre personnel, j'aurais préféré que ce soit plus aéré. Et l'autre point, bon, c'est vraiment minime. Hein, je trouve que l'objet de son traumatisme, en fait, est traité un peu de façon caricaturale. Okay. Neil Jackson, qui joue l'agresseur aka le nazi dans son monde imaginal, c'est vraiment nazi, c'est-à-dire que dans la vie réelle c'est aussi nazi. Okay. Et si on ne gardait que les scènes qui le confrontent à ces personnages, hein, qui sont très peu dans le film, ça serait caricatural. Alors je comprends qu'il a décidé de pas s'intéresser à ce perso et que du coup il a besoin que son impact soit immédiat, que le spectateur à aucun moment ne doute que c'est vraiment un fils de pute, de bâtard, d'enculé qu'il a en face de lui.
Surtout que c'est pas vraiment lui l'antagoniste.
Oui, mais on aurait.
C'est pas le vrai truc qu'il a à gérer, en fait.
Et encore une fois, le personnage n'est pas important, mais j'ai trouvé que c'était un peu rapidement torché, quoi, à ce niveau-là. Après, j'ai plein d'autres trucs que j'adore dans le film, mais Stéphane a certainement des tas de choses à nous dire.
L'aspect caricatural, je trouve que c'est un truc qui est assez récurrent, hein, chez Zemeckis, et y compris dans ce film. Je ne me concentrerai pas que sur ce personnage-là. Je trouve que même quand il est. Mais à la limite, c'est pas très grave, en fait, encore une fois, mais parce que c'est pas ce qui pose problème dans le film. Mais quand on est dans le monde de la performance capture, quand on est avec ces marionnettes, il y a un côté, je cite les films de guerre des années 50, si tu veux, hyper poussé, qui me semble à la fois référentiel, mais aussi beaucoup trop marqué, en fait, pour te faire justement comprendre que t'es pas dans t'es dans sa tête et t'es pas dans le vrai monde. Donc du coup, il y a tout un... Mais ça, c'est un truc qu'il a... Enfin... Moi, quand j'ai vu Retour à Futur 2 à l'époque au cinéma, et qu'en fait, à un moment donné, Doc s'arrête et qu'il explique en fait comment ils sont arrivés dans le 85 alternatif, en fait, j'étais déjà en train de me dire, mais je le sais, j'ai compris ça, en fait, t'as pas besoin de me l'expliquer. Donc, je comprends en fait que Zemeckis ait besoin de le pointer du doigt aux gens, et c'est un truc qu'il fait assez régulièrement. C'est-à-dire que pour le coup, c'est quelqu'un qui a, moi je trouve en fait, malgré des côtés frontales, a quand même tendance à avancer masqué. Souvent dans son cinéma, et il n'est pas aussi fin qu'un Spielberg, si on devait faire justement la comparaison avec Ready Player One et bien Lurman, qui est totalement légitime pour le coup, moi je trouve aussi, parce que effectivement c'est quelqu'un qui part de son cinéma. Je spoil.
Attention, Stéphane va spoiler.
Non, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui nous reprochent des fois, ah, d'un seul coup vous spoilez, tu vois. Mais quand on dit qu'il parle de son cinéma, il parle littéralement de son cinéma. Il y a un film en particulier qu'il cite, qui est inattendu. Tu vois, moi je trouve même qu'il est cohérent thématiquement, mais qui est complètement inattendu, parce que tu te dis, mais on n'est plus dans ce film-là, tu vois, on n'est pas censé être dans ce genre de film, et il le cite ouvertement, et c'est Retour à le futur.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le film qu'on lui demande tout le temps de reciter, il le cite, je veux dire, je pense qu'il n'y a aucun fan qui attend qu'il fasse un Retour à le futur 4, qui s'attend à ce qu'il le réexploite comme ça, en fait. Je pense que c'est là aussi où la comparaison avec Ready Player One est vachement.
Et c'est ce qui rend le film. On précise que c'est inattendu, mais logique dans le déroulement du récit.
C'est logique dans la thématique, c'est logique dans le déroulement du récit, et c'est logique dans le film qu'il essaye de faire, et quand il a des choses à dire sur lui, parce que effectivement, la problématique de la façon dont le film est vendu, c'est qu'il est vendu comme un Steve Carell, c'est-à-dire qu'il y a Steve Carell le comique, et il y a Steve Carell le comique dépressif qui fait, comment dire, des trucs comme, enfin, moi j'ai des films pas possibles, comme Little Miss Sunshine, ou comment ça s'appelle.
Je l'attendais, celui-là.
Non, mais ou Dine in Real Life, je les ai vus, hein, ces films, hein. C'est ça aussi le truc, quoi. C'est que.
C'est aussi pour ça que j'en veux au monde entier.
Voilà, et jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, ou ce genre de truc où en fait t'as envie de dire t'es un excellent acteur, t'as pas besoin de jouer le dépressif pour gagner un Oscar, quoi. Et ça aurait pu être ça le film si c'était pas Zemeckis qui avait fait le film, ça c'est une évidence en fait, vu le sujet, et le truc en fait, c'est qu'il y a cette logique en fait d'utiliser l'imaginaire, j'ai dit imaginaire moi Rafik, mais le truc, il y a une logique d'utiliser l'imaginaire là-dedans en fait, si tu veux, en termes de mise en scène, pour te faire comprendre ça. Ça, en général, effectivement, on le voit aujourd'hui, surtout déjà auprès de la critique et puis peut-être même auprès d'une certaine partie du public, mais je pense moins, ça passe ou ça casse en fait. Mmh. Et là, tu peux pas lui reprocher ça. C'est-à-dire qu'à Zemeckis, tu peux pas lui reprocher ça comme tu peux pas reprocher à Spielberg de faire ça avec Ready Player One. Un autre réalisateur, en fait, sur Ready Player One, n'aurait juste pas traité le monde où il l'aurait traité comme quelque chose sur un écran d'ordinateur ou dans, oui. Dans la vision, dans le casque de réalité virtuelle ou ce genre de choses. Non, les mecs, ils plongent dedans, ils ont un univers à créer, ils le font. Avec, comment dire, moi je trouve des fois l'aspect un peu caricatural qui va avec, mais qui existe en fait et qui est immersif, et ça c'est très important. Et cette logique, moi ce que j'ai apprécié dans celui-là, moi j'aime bien le film, j'aime beaucoup le film, je trouve que c'est assez, comment dire, c'est assez touchant de voir un cinéaste en fait vraiment parler de lui pour le coup de manière directe, ce qu'il a rarement fait, hein, je trouve, Zemeckis pour le coup, quoi. Même s'il y a des films où c'est assez c'est évident évoqué, qu'il le fait, quoi. Évident,
ouais. Il l'avait fait dans The Walk, hein, si
voilà, par exemple.
Dans The Walk, ouais, bien sûr, ouais. Mais pareil, encore une fois, de manière plus masquée,
ouais.
Parce que en fait, à chaque fois que tu, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu vas voir, par exemple, n'importe quel film que t'aimes ou que t'aimes pas le film, quand tu vas voir Apparence, t'es censé voir un thriller un peu bourgeois. Un truc comme ça, et d'un seul coup ça vrille dans autre chose. Quand tu vas voir Allier, tu crois que t'es en train de voir un film de guerre avec des stars, si tu veux, à l'ancienne, et d'un seul coup ça vrille dans un vrai drame matrimonial. Enfin, oui. Donc t'as tout un tas de trucs comme ça où c'est mine de rien, en fait, proposer quelque chose de totalement différent que ce que t'attends de voir, c'est toujours appréciable. C'est pas forcément dans l'air du temps, mais c'est appréciable. Voilà, le truc, c'est que moi je trouve qu'il manque peut-être éventuellement dans le film un. J'ai encore du mal à mettre le doigt dessus, mais en fait, un rapport émotionnel un peu plus poussé que je voyais un peu plus, par exemple, dans Allier, même si c'était de manière tournée, je pense qu'il parlait de ses divorces, il parlait de ce genre de choses, etc., etc. Là, je sais pas, je pense qu'il est tellement frontal sur son cinéma que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, ou alors je connais pas assez bien la carrière, ou j'apprécie pas assez bien la carrière de Zemeckis pour être totalement emporté par le film. Mais effectivement, et là je rejoins Julien, il a un rapport par exemple à la violence qui est assez intéressant, parce que ça, pour ceux qui connaissent le film, moi ça m'a fait penser à Beowulf et la façon dont justement il détourne les contraintes en fait du PG-13, il détourne les contraintes du truc pour faire un film qui est finalement assez cru tout en restant abordable auprès du public cible de base, parce que ça c'est un truc qui prend en compte. La seule question, c'est quand il traite quelque chose comme Retour au futur, qui est un film populaire énorme, la question, c'est à qui il s'adresse, en fait, exactement. Et c'est ça qui est assez étonnant quand tu vois ce film-là. C'est qu'effectivement, du film, entre guillemets, à Oscar de base, dans lequel tu peux éventuellement rentrer, même si, en fait, dès le début, on t'a déjà, en fait, fantasmé, en fait, de la vision dans la tête du personnage, si tu veux, est assez évident. En fait, à la fin, soit t'accroches, soit t'es largué, quoi. Et je pense que c'est pas le public de Retour à Futur qui vient voir ce film à la base. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est pas le public des Oscars non plus. Hein,
mais c'est ça.
C'est trop barjot, hein, c'est trop iconoclaste.
Et la grosse appréciation, effectivement, c'est le fait que enfin, après 15 ans après le Pôle Express, en fait, il a vraiment en fait commencé à se poser en fait des questions de comment intégrer le public dans la performance capture. Jusque là, enfin. La problématique de la performance capture, outre le fait qu'apparemment il n'en parle pas beaucoup, que ça lui est. Pas dans le film, je parle de manière générale, dans la presse, il reste assez. Il n'en parle pas tant que ça, non ? Si tu me regardes en faisant.
Julien lève les yeux un peu.
J'ai rien dit.
Il hausse les sourcils.
Non, mais et en fait, c'est quelque chose qu'il pourrait se réclamer, qu'il ne le fait pas finalement parce qu'il s'arrête.
Il
ne le rendait pas plus que ça. Quelqu'un comme Cameron, c'est complètement approprié en 2009 avec Avatar. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit OK, comment je vais prendre le public. Même Spielberg, il n'avait peut-être pas fait ça avec Tintin, mais il l'a fait clairement avec le BGG, où d'un seul coup, en fait, l'idée de masquer les deux univers, c'est qu'en fait, il fait une scission spécifique pour expliquer pourquoi, en termes de méthodologie, il change de fonctionnement, quoi. Et là, t'as ça dès le début du film, c'est-à-dire que t'as la première scène, effectivement, et t'as un simple mouvement de caméra qui est un espèce de truc qui est à travers l'objectif, en fait, de Steve Carell, où le simple fait de montrer que les figurines ne bougent plus, mais qu'en fait, d'un seul coup, ils bougent en appareil photo pour, le fait de montrer ce caméra à travers le point de vue de Steve Carell, pour moi, c'est une manière de faire des portes d'entrée, des portes de sortie, en fait, dans la logique de la performance capture. Il le fait plus vraiment après, parce que d'un seul coup, il se projette dans l'esprit de Steve Carell plus que dans son outil.
Il a plus besoin d'installer ça,
Mais le fait de montrer l'outil dès le début, c'est-à-dire, et de faire la comparaison, je me suis dit, d'accord, donc en fait, il y a quand même une volonté de montrer, en fait, regardez, c'est un peu mes tours de magie, je vous montre ça, et ça, mine de rien, bah, je trouve que c'est une vraie porte, enfin c'est une vraie façon de s'ouvrir vers le public, oui, qui lui manquait, moi je trouve, dans la performance capture jusque là. Et ce qui était dommage, parce que c'est, on sait que c'est un réalisateur Oscar, on sait qu'il a fait Forrest Gump, on sait tout ça, il va rester pour ça. Et j'ai peur qu'en fait, il reste pas pour d'autres, oui, pour problématiques, son, et que c'est que des personnes comme, voilà, que des personnes méthodologiques, que des, oui, personnes comme Cameron, oui, en fait, vont peut-être récupérer au final, parce que on le sait qu'Avatar 2, 3, 5, en fait, c'est des films qui vont vraiment, pour le coup, intégrer le public dans la démarche, oui, en fait, de ce que ça raconte et tout ça. Donc, du coup, c'est un film casse-gueule, pour le coup, qui mérite beaucoup plus d'être défendu que, pour prendre un exemple récent, Mortal Engines, tu vois, ou ce genre de truc où je trouvais que c'était, je lui en faisais des caisses. Voilà. Parce que, non, mais il prétend qu'il a gagné, mais il a rien gagné.
On ne règle pas ses comptes d'émission en émission.
Non, non, mais c'est malheureux. Je pense effectivement que je crois qu'il n'est pas sorti encore aux États-Unis, le film, donc Marwen. Hein, donc,
à l'heure où nous enregistrons, je ne crois pas.
Donc, ça va être difficile de savoir si ça va marcher. Ce serait vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a un côté film-somme dans le film, en fait, qui est assez important. Et voilà, quoi.
La bande-annonce fonctionne bien, en tout cas. J'ai été regardé par curiosité les commentaires sous les vidéos, les trailers américains, quoi.
Moi, je serais étonné que ça marche, hein, quand même, que ça fonctionne et que ce soit reconnu par l'Académie des Oscars. Je vais juste rajouter un petit truc, peut-être.
Vas-y, pour terminer.
Non, mais parce que c'est un truc aussi dont on n'a pas parlé. Ce qui est intéressant de la performance capture, c'est les possibilités que ça donne aux comédiens. Oui. Et je trouve que ça, c'est un truc, pour le coup, que je voyais, c'était pas super exploité, moi, je trouve, dans Ready Player One. Et là, ça l'est exploité à fond. Il y a une vraie réflexion, je trouve, là-dessus. Et j'ai envie de revoir le film rien que pour ça, en fait, en me focalisant là-dessus. C'est la façon dont les pantomimes, en fait, des comédiens sont différentes et, oui, se répondent entre l'univers, comment dit Rafik,
imaginal.
L'univers réel.
C'est simplement quand c'est le monde des représentations, mais en fait, oui, hein, c'est tout.
Mais voilà, non, mais pas de moi aussi, parce qu'il a du vocabulaire.
Il a l'air d'être un érudit quand même. Merde. Vois,
non, mais voilà. Alors, donc, le monde vaginal.
Non, mais c'est un truc, parce que c'est vrai qu'on parle à juste titre, hein, de beaucoup de mise en scène, d'écriture, de voilà. Mais ça, je trouve qu'on en a pas parlé. C'est super intéressant. Et c'est Zemeckis, en tant que pionnier, en fait, du cinéma virtuel, c'est un truc, en fait, qu'il aurait dû. Auquel il a réfléchi, quoi, oui, manifestement depuis le début, quoi, voilà.
Très bien. Pour terminer, si personne n'a d'autres remarques salaces à faire, on va faire comme d'habitude un petit tour de recommandations. Vous pouvez évidemment choisir l'univers qui vous plaira le plus, parce que vous savez, c'est un espace de liberté totale. Rafik.
Alors, en parlant de monde imaginal. De cinéastes qui se racontent à travers ce monde.
Non pas qui se la racontent,
mais qui se racontent de façon intime par rapport à leur imaginaire. Et éventuellement de travail sur les maquettes, je renverrai un film de Peter Jackson et Fran Walsh qui s'appelle Lovely Bones, dont je trouve qu'il a été plutôt mal accueilli à sa sortie.
Et je
trouve
toi,
assez, oui, c'est vrai, assez mal compris aussi. Et donc...
Je pense que Peter Jackson et Fran Walsh auraient pu faire Marwan. Tu disais
c'est
tout
vrai,
à l'heure, je ne pas.
C'est vrai.
Eux, totalement. Vois, et d'ailleurs, il y a un écho aussi avec Evenly Creature dans cette réappropriation de tes phobies par l'intermédiaire de miniatures.
Et donc, dans un film dans lequel il y a justement tout un travail sur ce que représente ce monde des représentations par rapport à nos névroses et à nos aspirations.
Et plus intéressant que Hérédité, qui est un film que j'aime bien par ailleurs, mais on en a fait des caisses là-dessus sur Hérédité, alors que tous ces films-là sont quand même plus intéressants.
C'était hyper bien Hérédité, arrêté.
C'était pas mal, moi j'aime bien Hérédité, mais voilà, t'as la différence.
Vous pouvez laisser la deuxième partie. Je recommande un nouveau visionnage de Lovely Bones. Voilà. À l'aune de Marwan.
La vision de Marwan, tout à fait. Julien.
En fait, il n'avait pas travaillé avec Universal depuis un autre film qui est Zemeckis, hein,
j'avais compris.
Jackson, ni Thomas Rozek. Depuis,
moi, je travaillais assez peu avec Universal.
Voilà, c'est ça. Mais il n'avait pas travaillé avec Universal depuis un autre film qui est assez, qui est vraiment hyper intéressant sur son rapport à la violence graphique et son goût pour la violence graphique. Et je pense qu'il vient de son amour pour les DC Comics, les Tales from the Crypt, tous ces trucs-là, qui est La mort vous va si bien, qui est un film qui est aussi qui a un pet au casque quoi, ah, définitivement.
Qui est bien saboté hein, pour le coup aussi.
Qui est,
hein.
Et qui est un film
le seul film Universal dont la bande annonce ne contient aucun plan du film, ouais. Mais que des scènes coupées dans la bande annonce.
Et qui est un film qui travaille sur la le corps meurtri mais de façon pas gore en fait. C'est rien que pour ça, c'est un film totalement atypique. J'ai du mal à revoir des exemples à part dans le cartoon américain peut-être. Mais il y a un truc en fait là-dedans dans La mort va si bien qui est vraiment désagréable, qui te fout mal à l'aise avec des os qui ressortent en fait de la peau par exemple et qui en fait je trouve particulièrement éloquent de ce goût en fait de Zemeckis pour je pense qu'il vient encore une fois du cartoon des DC Comics etc pour le ce qu'on appelle le gore, enfin c'est plus large que ça en fait, mais il y aurait quelque chose à créer là-dessus, voilà. Donc il y a un autre parallèle peut-être à créer là-dessus.
Un des films les plus documentés sur ce que c'est que la vie de star
Hollywood aussi, hein.
Ouais. Tout à fait. Stéphane.
Ah, bon, alors, moi, tes histoires de recommandations, ça commence un peu à me fatiguer, tu vois, Thomas Rozek, parce que le truc, c'est qu'il faut être honnête, on a fait combien d'émissions en tout?
C'est la 168, mais en vrai, on a enregistré plus de 300 émissions.
Voilà, et donc, moi, j'ai bien dû en faire 150 facile.
Facile.
Voilà, donc, au bout d'un moment, moi, je suis pas une machine, hein, tu vois, je peux pas recommander comme ça. En plus, c'est la nouvelle année. On commence, voilà, nouveau générique, tout ça. Donc en fait, j'introduis une nouvelle, tu vois,
une nouveauté,
une obligation en fait, même en ce qui me concerne en tout cas, tu vois. Je vais recommander le même film pendant toute l'année.
D'accord.
Voilà. Donc là, en fait, je réfléchissais, tu vois, j'étais en train de me dire quel film mériterait d'être recommandé en fait chaque émission. Il faut que j'ai longtemps cherché. Et là, je me suis dit bon, alors attends, Steve Carell, il était dans Corman. En Corman, il y avait Danny Trejo dans Corman, tu vois, parce qu'il faisait un barman, tu vois, et Danny Trejo, évidemment. Tout le monde pense à Anaconda. Anaconda, okay. Qui est quand même le père de la performance capture, parce que ouais. Tout le monde sait que John Voight joue John Voight, mais il joue aussi le serpent dans le film. C'est lui qui jouait le serpent, on est d'accord, tu vois. Donc voilà. Donc en fait, et en plus, c'est un film qui, quand même, déjà, en fait, posait un petit peu les bases de la logique de la performance capture et de comment, en fait, John Voight en serpent qui bouffe John Voight, c'est un peu, c'est en gros, si tu veux, c'est un peu cette espèce de démonstration comme quoi John Voight bouffait sa propre carrière déjà, si tu veux, il faisait déjà oublier en une seule performance, double en l'occurrence, là, tous les Oscars qu'il a gagnés auparavant pour finir par devenir ce magnifique acteur.
Ce morceau de viande mâchée,
voilà, et je viens parler de gore, de machin. Il cherchait un film où il y avait en fait comme ça une destruction du corps, une destruction de la viande. Ouais, Anaconda.
Voilà.
Okay. Donc Anaconda qui propose aussi un monde vaginal lui aussi, puisque la bouche de Anaconda est quand même assez. Voilà, donc Anaconda, je vous conseille Luis Loza, qui est 1997.
Qui avait fait le spécialiste. C'est...
L'expert, pardon, mais c'était moins bien quand même.
C'était moins bien
qu'Anaconda. Quoi. Voilà, Anaconda, c'est un très beau film aussi sur le matriarcat. Mais moi aussi.
Ouais.
Trois fois.
Voilà,
j'ai Blu-ray. J'attends le Criterion qui est toujours pas sorti. Donc voilà. Donc Anaconda.
Toute l'année Anaconda.
Ah, si j'y arrive.
Anaconda, le prédateur. Non, parce qu'il faut quand même respecter l'œuvre.
Le premier, parce que le 2, Anacondas. Avec un S, là, qui est réalisé par Dwight H. Little, c'est pas bon, on a beaucoup exagéré sur la qualité de ce film, tu vois, donc là, c'est Anaconda, le prédateur, effectivement.
Le vrai, quoi.
Le vrai, l'unique. Peut-être que je changerai de temps en temps pour un autre film, on verra, hein, je m'autorise ça, je fais ce que je veux, mais je pense qu'en fait, qu'on va quand même rester...
Le mec crée des règles et les brise dès l'instant où il les crée.
Dès la première émission. Mais voilà, Anaconda, je vous...
Ok, donc ce sera une année
qui a gagné 8 Oscars hein, quand même, il faut le rappeler aussi.
Une année placée sous le signe de l'Anaconda.
Anaconda.
Ok, voilà. Très bien. Ça promet une belle année 2019. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.